Pourquoi faut-il que le meilleur gagne ? C'est une phrase que l'on entend souvent, notamment dans le domaine du sport, et qui résonne comme une évidence, renvoyant à la fois au bon sens et à la morale. Mais il s'agit d'un type particulier de morale qui relève d'une forme d'immanence. Quand on parle du meilleur, il s'agit là du meilleur par la force, le talent, le corps, l'intelligence, la stratégie, l'endurance. C'est-à-dire un ensemble de qualités qui se manifestent dans les faits et prendront sens dans le feu de l'action, pour se trouver automatiquement justifié par le résultat et pour le coup la victoire, car comme on le sait, seule la victoire est belle et malheur au vaincu. Mais à la réflexion, cette situation n'est-elle pas une forme d'état de nature déguisé, où seul le plus fort a une chance de survie ? Certes, dans toute forme de compétition, il y a des règles et tout un tas de procédures à respecter, mais l'imposition de la force, qu'elle se manifeste de manière plus ou moins subtile, sera toujours l'ultime critère d'appréciation. Ne dit-on pas du champion qui réussit un geste parfait à tous les coups, c'est une bête. Droit du plus fort quand tu nous tiens. Hobbes, dans le Léviathan, le décrivait de la sorte. Il n'existe pour nul homme aucun moyen de se garantir qui soit aussi raisonnable que le fait de prendre les devants. Autrement dit, de se rendre maître, par la violence ou par la ruse, de la personne de tous les hommes pour lesquels cela est possible. Jusqu'à ce qu'il n'aperçoive plus d'autres puissances assez fortes pour le mettre en danger. Également, il existe quelques hommes qui, prenant plaisir à contempler leur propre puissance à l'œuvre dans les conquêtes, poursuivent celle-ci plus loin que leur sécurité ne le requiert. On retrouve là, dans toute sa splendeur, la figure du champion qui règne en maître sur sa discipline et ses congénères en short. Comment se fait-il qu'une grande partie de l'humanité reste fascinée par de tels exploits, alors que dans la vie réelle, les hommes n'ont Dieu que pour la démocratie, l'égalité, la fraternité, la solidarité, etc., etc. En effet, pour sortir de cet état de nature dangereux et invivable, il faut faire société et ainsi abolir cette différence naturelle de force entre les hommes, à l'aide de règles et de lois, et donc parvenir à une forme d'égalité culturelle, c'est-à-dire politique et sociale, au-delà des inégalités naturelles entre les forts et les faibles notamment. Le sport de compétition serait donc la négation de l'émancipation démocratique et pacifique de l'humanité, une forme d'état de nature revisité, qui permettrait au plus fort de s'imposer dans les limites de l'acceptable ou de l'avouable. Finalement, si l'on poursuit dans cette logique, le dopage, si l'on s'en tient non pas aux règles de la compétition, mais au fonctionnement de la société civile, serait quelque chose de moral, puisqu'il permet au plus faible de se hisser au niveau du plus fort, voire de le surpasser. Voilà qui est troublant. Le dopage serait au sport ce que l'entraide, la solidarité, la redistribution sont à la société démocratique et policée. Un nivellement salvateur qui nous rend tous plus égaux et nous fait tendre vers une forme de justice. Plus de forts, plus de faibles, une piqûre et tous pareils. Renversement de situation. Imaginez la une des quotidiens sportifs, dopage autorisé. Les bourrins vont enfin se hisser au niveau des purs sang. Justice est faite, et que le meilleur gagne. Vous m'accorderez qu'il y a là quelque chose qui cloche et qu'on aboutit à une forme de sophisme philosophique qui violent notre plus ou moins bonne conscience de supporters passionnés par les exploits naturels de leurs champions. Mais quand même, pourquoi ne tolère-t-on pas l'égalitarisme universel dans le sport de compétition, alors qu'on le revendique haut et fort dans toute la société dite évoluée ? Pourquoi valoriser la loi du meilleur et du plus fort dans le sport, alors qu'elle est combattue, voire bannie dans la société ? Il y a sans doute dans cette histoire une forme d'archaïsme qui se joue et se rejoue sans cesse. Celui de l'enfant qui veut se mesurer à la course avec son camarade. Le premier qui arrive à l'arbre et retour sera le meilleur. Un point, c'est tout. Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal, le précisait en ces termes. Le corps sera nécessairement volonté de puissance incarnée. Il voudra croître et s'étendre, accaparer, conquérir la prépondérance. Non pour je ne sais quelle raison morale ou immorale, mais parce qu'il vit et que la vie, précisément, est volonté de puissance. Peut-être avons-nous honte de ce ressentiment des faibles que nous avons démocratiquement revendiqué pour échapper à la loi du plus fort. Et nous expions cette honte en hurlant, tels des démons, nos encouragements dans les travées des stades et des salles surchauffées. Certes, un monde où les faibles s'unissent pour résister au pouvoir oppressif des forts est souhaitable, car plus facile à vivre. Mais un terrain de jeu, où seuls les meilleurs et les plus forts vaincront, nous renvoie au temps des âges farouches, là où la vie et la mort se jouaient sur un geste aussi précis et définitif qu'une amortie du fond du cours. Et, alanguis sur nos canapés, nous restons là ébahis et fascinés, tels des groupies gavées de bière et de pizza, les abdominaux inversement proportionnels à l'écran plat devant lequel on s'affale. Et oui, ce champion sans pitié, qui assomme et humilie ses adversaires de toute sa classe et sa puissance, ça aurait pu être moi, si je n'avais dû y renoncer pour devenir un homme normal et civilisé. Le champion que je ne suis pas est cette bête amorale qui sommeille en moi. C'est pourquoi les vrais amateurs de sport préfèrent toujours les méchants qui gagnent aux gentils qui perdent. Les brutes épaisses plutôt que les humanistes généreux. Mike Tyson plutôt que Poulidor. Alors pour que vive le sport, soyons modestes et restons philosophes.